L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusé à 18h. Et aujourd'hui, on retrouve, comme c'est le cas une fois par trimestre, l'association CLCV comme consommation, logement, cadre de vie. On retrouve même un sujet qu'on a déjà abordé, mais apparemment ça vaut le coup d'y revenir. L'antenne quimperoise de la CLCV notait que l'énergie, c'était le sujet sur lequel elle était majoritairement mobilisée en ce moment, en raison des coûts, des tarifs qui grimpent, mais aussi parce qu'il y a des incompréhensions, parce qu'il y a du changement en vue fin juin aussi, et que ça donne l'occasion aussi parfois à des arnaqueurs de tout poil ou juste à des vendeurs agressifs d'abuser des gens. Avec nous aujourd'hui, la juriste de la CLCV du Finistère, Valérie Bouge. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors, on va commencer par les factures. On va pas lire la facture à la radio, mais parce qu'apparemment elles sont toutes différentes selon les opérateurs.
C'est la présentation qui est différente, voilà, en fait. Donc ouais, les informations sont pas forcément. Les informations sont là, mais ne sont pas toujours placées au même endroit. Ou des fois, il y a trop d'informations.
Alors voilà.
Et ce qui fait qu'on s'y perd.
Ça peut être un problème. Il y a quand même des obligations sur d'informations qui doivent figurer sur une facture d'énergie. Enfin, c'est pas pareil pour le gaz et l'électricité.
Alors, réglementairement, j'ai pas recherché, mais enfin, effectivement, ce qu'on va retrouver, ça va être l'abonnement, en fait, hein, la partie fixe de la facture, la consommation. Donc abonnement et consommation ne sont effectivement pas sur la même période, donc des fois ça peut être sujet à incompréhension de la part des consommateurs. On va retrouver la TVA, donc l'application de la TVA sur à la fois l'abonnement et la consommation, et on va avoir les taxes, donc qui existent, qui seront les mêmes pour tous les fournisseurs, hein, qu'on va retrouver, qui vont apparaître avec et aussi l'application de la TVA qui n'est pas forcément la même que celle que sur la consommation.
Et certaines personnes donc, ont vu leur facture alors augmenter de façon très importante, on va dire, et ne comprennent pas, pourquoi, parce qu'ils ont fait des efforts,
qui
ont fait des efforts.
Je comprends tout à fait leur incompréhension, mais c'est là ce que je dis souvent aux consommateurs, c'est qu'il faut faire une différence entre la consommation et la facturation. Et souvent, en fait, les consommateurs vont regarder que la facturation. Ce qui se comprend, hein, c'est ce qui va sortir de leur portefeuille. Mais là, si on regarde, effectivement, ils ont fait attention. Ils ont mis à 19, hein, ils ont suivi les préconisations, ou même certains ont coupé pour pouvoir limiter, parce que l'inquiétude est là, hein, par rapport aux facturations, et se retrouvent avec des factures encore plus élevées qu'avant. Et c'est là qu'on voit la différence, c'est-à-dire que souvent, si je vais analyser ces factures-là, je vais constater qu'effectivement, la consommation a pu baisser par rapport à l'année précédente. Donc, logiquement, eux, ils estiment qu'ils devraient payer moins cher. Sauf que on a eu une augmentation, en fait, des tarifs. Alors, on va avoir
Et pas qu'un peu.
On va avoir deux situations. On va avoir le bouclier tarifaire ou les tarifs, en fait, qui sont indexés sur le prix de marché. Même si on a baissé sa consommation et qu'on se retrouve protégé par le bouclier tarifaire, alors j'explique le bouclier tarifaire, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement, donc en 2022, une première fois, de bloquer les prix de l'électricité et du gaz sur le prix du gaz et de l'électricité. Je crois que c'était en octobre 2021, donc on a pris le prix à ce moment-là et on l'a bloqué. Pour le gaz, ça a été totalement bloqué, c'est-à-dire que tout 2022, on est resté au prix qui était appliqué en octobre 2021. La guerre en Ukraine. Et pour l'électricité, en fait, on a bloqué le prix effectivement de 2021 avec une augmentation à plus 4%, mais pas plus ni moins. Donc effectivement, ça a quand même protégé le consommateur. Le bouclier tarifaire a été reconduit pour 2023, mais avec des modalités différentes. C'est-à-dire que là, le gouvernement a décidé d'appliquer un taux, une augmentation maximum une fois dans l'année de 15%.
Donc c'est pas rien.
C'est pas rien du tout. Non, mais après, c'est vrai que les tarifs ont fortement augmenté.
Ça protège quand même
le consommateur. Donc 15%, et cette fois-ci, électricité et gaz. Et ça, ça a dû être appliqué en février. Donc voilà. Après, on a les tarifs, en fait, qui sont indexés sur le prix de marché. Et c'est là que ces offres sont catastrophiques, parce que compte tenu du contexte qui fait qu'on est à une forte hausse des tarifs, le prix du kilowattheure, que ça soit en gaz ou en électricité, augmente en fonction du prix sur le marché. Donc on a vu des factures, mais faramineuses. J'ai vu dernièrement en permanence un monsieur qui me dit, mais j'ai fait de très très fortes baisses Il ne se chauffait même plus. Il avait, pour l'électricité, pour regarder le soir, il allumait des bougies chauffe-place. Et vous dire arriver à quelle situation, parce qu'il craignait vraiment de ne pas pouvoir payer. Mais il me dit, mais je comprends pas pourquoi, mais c'est, je ne consomme quasiment plus rien et le prix a explosé. Et en fait, en regardant son contrat, parce que c'est ça, les gens vont regarder la facturation. Ils vont pas aller regarder plus loin, regarder quel type de contrat ils ont. Et là, en l'occurrence, ce monsieur, quand j'ai analysé son contrat, il s'avère qu'il avait une offre qui était... Il avait une offre très intéressante précédemment, c'est-à-dire qu'il avait signé, il y a 4 ans, une offre à prix fixe. Donc, jusqu'en novembre, qui était valable pendant 4 ans. Donc, comme il avait signé avant les augmentations très importantes, jusqu'en novembre 2022, où il était couvert par cette offre-là, il a eu des tarifs, mais vraiment très intéressants. Donc, il n'a pas subi, lui, les hausses qu'il y a eu l'année dernière. Par contre, quand son offre s'est terminée, elle a été reconduite, mais au tarif qui existait à ce moment-là. Donc, il s'est retrouvé avec un tarif en novembre dernier qui était quand même très, très élevé. Et donc, en fait, son nouveau contrat était parti sur ce tarif-là. Ah. Et donc là, c'était catastrophique. C'était, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé le fournisseur d'énergie et on a la démarche à faire. Dans ce cas-là, c'est de changer d'offre et de repartir soit sa dépense
d'électricité. On change d'opérateur, alors change,
bah, c'est même pas forcément changer. En l'occurrence, là, on n'a pas changé de fournisseur puisque c'était, en l'occurrence, c'était un fournisseur historique. Hein, et on a juste changé d'offre. Alors, il est possible de changer de fournisseur, mais là, on a juste changé d'offre et on a pris une offre, effectivement, qui était indexée.
Donc, ça faut prendre une offre
sur le tarif réglementé. Alors c'est ça. Après, on va voir après dans les questions suivantes. Mais en fait, on a 4 types d'offres. On a le tarif réglementé qui existe pour l'électricité, qui est à la vente et qui est toujours proposé et qui va continuer à exister. On a le tarif réglementé du gaz qui existe toujours jusqu'au 30 juin pour ceux qui ont déjà souscrit, mais qui n'est plus. Ouais. On ne peut plus y revenir. On peut plus le souscrire déjà depuis fin 2019. On a autrement les offres à prix fixe, c'est-à-dire qu'on souscrit une offre où le prix va rester fixe pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon les offres. Et on a les offres, en fait, qui sont en tarif libre, en fait, qui fluctuent sur le prix de marché. Mais là, c'est catastrophique. Parce
et on sait comment ça se répartit, en gros, dans la population qui
est-ce que... Je pense quand même, sur le prix de marché, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et là, j'espère que les gens qui ont réagi au plus vite pour changer de fournisseur, le tarif réglementé reste quand même, je pense, majoritaire. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, avec les offres fixes, bah le cas du monsieur que j'ai expliqué tout à l'heure, il avait un tarif très intéressant sur le moment. Mais il faut vraiment connaître son contrat, suivre l'évolution des tarifs. Si quelqu'un veut faire ça, alors c'est une insécurité quand même, des fois tarifaire ou contractuelle, hein, si on est sur un tarif libre. Mais sur le principe, le tarif, comment dire, le prix de marché, là, c'est en augmentation. Mais ça veut dire que si ça redescend, le tarif baisse aussi. Ce n'est pas le cas actuellement. Mais bon, après, quelqu'un qui suit très bien son contrat, pourquoi pas. Mais c'est une insécurité à la fois tarifaire et une insécurité contractuelle.
D'accord. Donc, ça, c'est clair maintenant, enfin j'espère en tout cas, les auditrices et les auditeurs. Donc le bouclier tarifaire s'applique à tout le monde, hein, c'est ça?
Alors il s'applique, qu'on soit clair justement sur ces 4 offres-là que j'ai citées, il ne va s'appliquer donc qu'aux tarifs réglementés et aux offres indexées sur le tarif réglementé, voilà. Puisque le tarif fixe, il est fixe par principe, et le bouclier tarifaire ne s'applique pas sur les offres de marché.
Très bien.
Enfin, autre marché qui fluctue selon le marché, parce que les autres, tout ce qui n'est pas tarif réglementé est une offre de marché.
Mais les offres de marché, c'est plutôt pour des professionnels en l'occurrence, quoi.
Ah non, pour les particuliers. En fait, en 2007, il y a eu une ouverture du marché, en fait, de l'énergie à la concurrence. En fait, on a voulu, ouvrir pour justement que les tarifs, fluctuent et que ça soit bénéfique aux consommateurs.
Censé être bénéfique, voilà.
C'est ça.
La concurrence,
en fait,
était censée.
On avait pris comme exemple aussi, on avait eu l'ouverture aussi du marché de tout ce qui est fournisseur d'énergie,
téléphonie
ou autre, où là, ça avait vraiment eu un impact. On a bien vu à l'arrivée de Free sur le marché, ça a vraiment fait bouger les choses. Par contre, au niveau de l'énergie, on n'a rien vu de tout ça. Et c'est pour ça que nous, on se bat maintenant en tant qu'association de consommateurs pour demander un maintien du tarif réglementé, comme je le disais, qui est le seul bouclier, ça c'est pas le bouclier tarifaire, mais justement pour avoir une sécurité contractuelle et une sécurité tarifaire.
Et alors, qu'est-ce qu'on vous répond à...
Eh ben, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Là, ce qu'on a fait, nous, parce qu'en fait, on va y revenir, donc c'est la fin du tarif réglementé du gaz. Hein. L'électricité n'est pas encore remis en cause et on croise les doigts pour que ça ne soit pas revenu en cause dans le futur. On va avoir la fin du tarif réglementé du gaz qui arrive le 30 juin 2023. Donc là, on est aux portes de ce changement-là.
On reçoit encore des courriers, d'ailleurs,
voilà,
pour dire...
Pour être honnête, on ne sait pas ce qui va se passer après, parce que qui dit fin tarif réglementé dit aussi fin des offres indexées sur le tarif réglementé. On ne peut s'être indexé sur quelque chose que s'il existe. Ça existe. Alors, il est prévu, normalement, je crois que la CRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie, donne un prix de référence qui pourrait donner une base, une mesure étalon, je pense, par rapport au contrat. Mais au niveau sécuritaire, au niveau tarifaire et contractuel, comme je le dis tout à l'heure, je ne pense pas que ça va donner les mêmes gages de sécurité qu'effectivement le tarif réglementé.
Donc, parce que sinon, les prix du gaz, au niveau du marché libre, ils sont toujours quand même indexés sur le prix du pétrole ou ça, c'est fini?
Alors ça, j'avoue que c'est très compliqué, même à mon niveau, moi, où il leur fallait vraiment que je me mette dedans, je serais... Effectivement, il y a des calculs compliqués, en fait. Non, je crois que c'est l'électricité qui doit être indexé, le prix de l'électricité qui doit être indexé aussi par rapport au prix du gaz. Après, le pétrole, il y a sûrement un rapport, mais c'est trop compliqué pour pouvoir donner quelque chose de simple à comprendre. Mais en tout cas, effectivement, ces prix fluctuent et c'est souvent en amont, en fait, ce qui a été acheté. On paye maintenant le prix de ce qui a été acheté il y a déjà plusieurs mois. Donc là, a priori, on aurait peut-être une baisse actuellement. Maintenant, je pense qu'on en ressentira véritablement les effets que dans quelques mois.
Donc la fin du tarif, puisqu'on est sur le tarif réglementé, on va y rester après tout. Donc le 30 juin, fin du tarif réglementé pour le gaz.
Oui.
Donc il faudra choisir un opérateur, un fournisseur en fait, c'est ça.
Alors
privé.
Ce qui va se passer, il y aura pas de coupure de gaz. Alors c'est vrai qu'on est incité depuis plus de 3 ans en tant que consommateur au tarif réglementé. Il y a eu plusieurs courriers qui ont été envoyés donc par Engie, hein, qui est le fournisseur historique qui pouvait vendre ce tarif réglementé, pour inciter donc à donner les explications et dire voilà, vous pouvez changer de... Il faut que vous changiez d'offre, en fait. Et on a eu un peu de panique chez les consommateurs qui demandaient qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Nous, pour l'instant, tant que le tarif réglementé existe, il n'y a pas de souci à pouvoir rester jusqu'au 30 juin. Voilà, je maintiens cette sécurité tarifaire et contractuelle. Vous pouvez rester jusque-là. Après, si vous n'avez pas choisi de fournisseur à cette date-là et qu'effectivement, on a cette fin du tarif réglementé, vous basculerez sur une offre d'Engie. Hein. Il n'y aura pas de coupure.
Oui.
Maintenant, si vous souhaitez regarder maintenant les offres qui peuvent être intéressantes, il y a possibilité d'aller sur un comparateur mis en place par le médiateur de l'énergie. Hein. Alors, je ne vous dis pas que c'est simple. Vous allez pouvoir... On va vous demander des informations, en fait. Vous êtes en maison, vous êtes en appartement, vous êtes à deux, vous êtes voilà, qu'est-ce que vous avez comme énergie, électricité, gaz ou simplement électricité, voilà. Et vous allez pouvoir faire en fonction, si vous connaissez votre consommation annuelle, vous pouvez la rentrer aussi et on va vous proposer des offres et vous allez pouvoir accéder à tous les contrats. Alors, il faut prendre le temps de regarder ces contrats-là.
Et c'est quand même bien mis à jour, enfin, je veux dire...
Oui, c'est à jour. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le médiateur de l'énergie, donc c'est...
C'est indépendant. Enfin,
c'est indépendant, voilà.
Okay.
Donc ça, vous pouvez le faire et vous pouvez choisir une offre, voir ce qui peut être intéressant à ce moment-là.
Mais donc, à la limite, le 29 juin, on regarde le comparateur et en gros, on choisit. Quoi.
Voilà, parce que de toute façon, il faut savoir que changer de fournisseur, c'est quelque chose de très facile, en fait. Il suffit que vous appeliez le fournisseur qui vous intéresse, vous lui dites voilà, je suis intéressé par cette offre, vous lui dites je viens chez vous. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas de démarche à faire auprès de l'ancien fournisseur. La résiliation se fera automatiquement et on peut faire ça à tout moment.
Et c'est vrai, oui, on n'a pas de, il n'y a pas d'engagement comme en contrat téléphonique, engagement pour 2 ans minimum.
Non,
ou quoi,
non, il n'y a pas d'engagement à ce niveau-là, ce qui fait qu'on peut quitter à tout moment. Le fournisseur, lui, peut avoir un engagement quand on est, par exemple, sur une offre fixe. Il peut, voilà, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, selon l'offre que vous avez signée.
Il
n'a
pas le droit d'augmenter ses prix, quoi.
Il n'a pas le droit d'augmenter ses prix. Alors après, il faut voir dans le détail, hein, parce qu'il y a l'abonnement, il y a la conso. Les taxes, par contre, peuvent augmenter, parce que ça suit, en fait, ce qui est pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Il y a des choses qui peuvent fluctuer, mais voilà. Mais vous n'êtes absolument pas tenu par un délai ou à rester chez un fournisseur tant de temps. Vous avez souscrit il y a une semaine, vous pourriez très bien changer la semaine suivante. Alors, c'est pas le but, hein, de faire yo-yo et de passer de l'un à l'autre sans arrêt.
Mais
en tout cas, pas de crainte à avoir, parce que beaucoup de gens nous appellent des fois quand ils se sont fait démarcher. On a certains démarchages qui sont assez agressifs.
Alors oui, est-ce qu'on peut en parler un
que
petit peu,
ça soit à domicile ou par téléphone. Il faut savoir que il est tout à fait possible de revenir en arrière en appelant un autre fournisseur. ça sera sans frais.
Mais on ne peut pas revenir aux tarifs réglementés si on l'a laissé tomber. Par contre.
Alors, pour le gaz, on ne peut plus. De toute façon, ça, c'est plus possible. Effectivement, si vous avez souscrit, si vous étiez au tarif réglementé du gaz et que vous passez à une autre offre, vous pourrez revenir à une autre offre, mais pas au tarif réglementé, effectivement. L'électricité était tout à fait possible.
Et donc, ça, jusqu'au 30 juin, donc, la CLCV nous incite à rester au tarif réglementé. OK. Est-ce qu'il y a aussi eu des. Vous avez eu vent d'arnaques liées à ce. À ce futur changement, est-ce qu'il y a des arnaqueurs qui ont essayé d'accuser des gens ?
Arnaque, non. Des démarchages très agressifs, oui. Moi, notamment, on travaille beaucoup à la CLCV en tant qu'association représentative des locataires avec les bailleurs sociaux. Et on est sur le terrain. Et quand ce sont des grands groupes, des grands immeubles, il y a du démarchage, là, on nous appelle parce qu'on nous dit, on a des démarcheurs qui passent et qui vont mettre le pied dans la porte, forcer un petit peu le passage. Et puis, voilà. C'est un sentiment de démarchage agressif qui peut être ressenti, d'arnaque, pas véritablement, puisqu'ils passent, ils font, c'est un contrat à un type, de toute façon. Les seules choses qu'on peut avoir, mais c'est des compléments, c'est qu'on l'a peut-être un peu moins, mais on l'a eu avant, c'était, en fait, un démarcheur peut être multicarte. Donc, c'est-à-dire que c'est un démarcheur qui peut à travailler pour plusieurs personnes. Et ce qui fait qu'on voyait régulièrement avant, c'est-à-dire... pour un fournisseur d'énergie, pour une assurance, et ainsi de suite. Ils pouvaient souscrire. Alors là, quand vous souscrivez pour une assurance extérieure au contrat, effectivement, ça peut être compliqué parce que, si vous ne réagissez pas suffisamment, donc délai de 14 jours,
oui, qui est le délai de rétractation. Pas, on ne peut pas le résilier comme ça.
Un délai de 14 jours, une suite à un démarchage pour vous rétracter, il ne faut surtout pas hésiter. C'est-à-dire que vous pouvez changer d'avis sans avoir à motiver, sans avoir à vous justifier. Bah, c'est vrai que c'est plus compliqué pour ces contrats d'assurance.
On n'a que 14 jours.
Voilà, c'est ça.
Il ne faut pas laisser passer le coche. Il faut bien rendre compte qu'on a signé un contrat d'assurance.
En fait, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que ma signature m'engage. Que ça soit une signature manuscrite ou que ça soit une signature électronique qu'on a de plus en plus. Et donc faites attention, en fait, quand vous recevez un SMS ou un mail, en disant confirmer, en fait, ou donner, quand quelqu'un au téléphone vous dit, voilà, vous avez reçu un SMS, donnez-moi ce qui est écrit, le code qui est écrit, en faisant ça, vous signez, en fait. Et ça a une valeur. Donc faites attention.
Oui, il y a d'ailleurs des arnaqueurs qui utilisent cette démarche-là aussi de code à recopier, à fournir, il ne faut pas donner son code. Jamais. Alors, donc, on a parlé de la consommation d'énergie en électricité, en gaz. Pour ce qui est du fioul ou du bois, c'est open bar, c'est de la concurrence, quoi. Là, il n'y a pas de réglementation.
C'est de la concurrence, c'est du commercial, tout simplement. Mmh. C'est vous qui allez vous renseigner. Enfin, après, il y a des contrats pour des fournisseurs de gaz ou de fioul, et puis le bois, vous vous renseignez auprès de personnes qui vendent du bois. Il n'y a pas de protection.
Il n'y a pas de bouclier tarifaire. Mais il y a éventuellement donc le chèque. Le chèque énergie, c'est pour. L'électricité,
ça peut
et gaz.
Toute énergie. Ça peut être le fioul aussi. On peut tout à fait l'utiliser pour le fioul, même pour le bois. Vous pouvez l'utiliser.
Après, comment ça marche,
Alors, le chèque énergie, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a 4-5 ans maintenant, qui est normalement quelque chose d'automatique. Vous n'avez pas de démarche à faire. La seule chose pour ne pas justement avoir de démarche à faire, c'est de faire sa déclaration de revenus. Ça c'est important.
C'est une base.
Même si vous n'êtes pas imposable, c'est une base, puisqu'en fait le chèque va être envoyé à l'adresse aussi qui figure sur la déclaration de revenus. Et le deuxième principe, donc il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est d'être en fait assujetti à la taxe d'habitation. Alors je m'explique, assujetti ça ne veut pas dire la payer, ça veut dire en fait ça permet d'apporter la preuve que vous êtes soit locataire, soit propriétaire. Parce qu'un quelqu'un qui va être hébergé, qui n'est pas titulaire d'un contrat, que ça soit de propriétaire ou de locataire, ne va pas pouvoir bénéficier du chèque énergie. Donc il y a ces deux conditions-là. Si ces deux conditions-là sont remplies, vous allez recevoir donc un chèque énergie. Alors c'est automatique pour le recevoir, ce n'est pas automatique pour l'utiliser. La différence, elle est là. Par rapport au tarif de première nécessité qui existait auparavant et au tarif de solidarité gaz, qui était automatiquement, dès lors que vous êtes rentré dans les critères, adressé à votre fournisseur d'énergie. Là, vous allez avoir une démarche à faire. Donc, vous allez, par courrier, soit par une plateforme qui est Chèque Énergie, tout simplement. Donc, vous allez utiliser votre Chèque Énergie. Donc, sur la plateforme, on va vous poser quelques questions. On va vous demander de donner le numéro qui est sur le chèque, de gratter une case pour donner un code. Et vous allez pouvoir l'affecter au fournisseur que vous avez choisi. Si vous n'avez pas Internet, ce que vous faites, c'est que le Chèque Énergie en lui-même, c'est un bordereau papier. Vous vous allez le compléter derrière en mettant soit un numéro de facture, soit un numéro de contrat, soit un numéro de client. Vous allez prendre une facture, une copie de votre facture, et vous allez l'adresser. Il y a une liste normalement de fournisseurs qui vous est fournie, et vous allez adresser ce chèque à ce fournisseur. Et je tiens juste à préciser que si vous avez deux fournisseurs, un pour le gaz, un pour l'électricité, le chèque énergie, c'est à la fois une somme d'argent, mais c'est aussi des droits. Donc, il faut penser que si vous avez envoyé le chèque énergie au fournisseur, par exemple à l'électricité, et vous souhaitez quand même bénéficier des droits qui sont accolés, hein, donc c'est des droits qui sont pas de frais de mise en service, il y a des frais qui sont limités en cas d'impayé ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, il y a une attestation qui est fournie avec le chèque énergie. Donc, cette attestation, il faut l'envoyer au fournisseur à qui vous n'avez pas adressé de chèque énergie. Comme ça, il saura que vous bénéficiez de ses droits et il pourra vous en faire bénéficier.
Et donc, ceux qui bénéficient les foyers qui bénéficient du chèque énergie, c'est sous condition de ressources.
C'est sous condition de ressources, effectivement. C'est un calcul qui est fait par unité de consommation. Alors, unité de consommation dans un ménage, c'est-à-dire la première personne, c'est une unité, après la deuxième, c'est 0,5 et après, c'est 0,3. Donc, il y a un calcul qui est fait comme ça en fonction des revenus et je crois que le plus bas pour une personne, le plus bas niveau, c'est inférieur, les revenus fiscaux de référence, je crois que c'est inférieur à 10 800, quelque chose comme ça.
Ça ne monte pas très haut quand même.
Non. Ouais. Après, ça, c'est pour une unité de consommation. Oui, si vous êtes plusieurs, ça peut monter plus haut que ça.
Très bien. Donc, ce chèque énergie, on en bénéficie, quand on procède par Internet, c'est immédiat l'application, c'est à la première facture qui suit
ça. En fait, si vous êtes vous payez tous les deux mois, ça sera sur la prochaine facture.
Et ça figurera dans la facture ?
Oui, ça figurera. Oui, ça figure. Vous allez regarder à l'arrière de la facture, souvent c'est mis en bas, effectivement, les sommes qui sont déduites. Où ça figurera sur la facture de régularisation quand vous êtes mensualisé. Soit vous êtes mensualisé si vous êtes mensualisé, en fait, ils vont déduire. Vous n'allez pas payer. Faites attention, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais ça va. Les mensualités plutôt suivant cet envoi vont pouvoir être enlevées en fait. Vous n'allez pas payer en fonction du chèque énergie. Et après, vous pourrez le voir et le constater sur la facture de régularisation donc qui arrive à la fin des 11 mois de mensualisation où on fait on rapporte en fait ce qui avait été estimé que vous avez payé par mensualité à la réalité. Et là, vous allez voir apparaître le chèque.
Il y a aussi une prime fuel bois carburant.
Oui, c'est des aides spécifiques qui ont été accordées cette année, en fait. C'est tout nouveau, compte tenu de la situation. Alors, la prime carburant urgent, si vous ne l'avez pas demandé, puisque là, c'est cette semaine la fin, c'est-à-dire au 31 mars, c'est le dernier moment pour pouvoir le réclamer.
Donc, c'est les 100 euros, c'est ça ?
Ça, c'est 100 euros. Mmh. Et là, il faut être, en fait,
Il faut être salarié, non ?
Alors, on peut avoir 16 ans. En fait, 16 ans minimum fin 2020. Il fallait avoir 16 ans minimum au 31 décembre 2021. Faut effectivement utiliser sa voiture pour son activité professionnelle et faut être salarié où il y a plusieurs détails parce que salarié et effectivement et après c'est sous condition de ressources aussi donc il faut regarder donc c'est de souvenir c'est pareil je crois que ça va être le 10 800 mais il faut calculer en fait faut prendre son revenu fiscal le diviser par nombre de parts et on a où c'est 14 700 peut-être je sais plus là j'ai plus en tête excusez-moi
et si on a deux voitures dans un foyer
J'irais même qu'on pourrait même avoir trois si un enfant travaille, est en alternance ou autre, et qu'il a trois véhicules. Voilà, c'est tout à fait possible, de la demander. Ça pourrait faire 3 fois 100 euros, parce qu'on n'est pas obligé d'être propriétaire du véhicule.
Jusqu'au 31 mars.
Donc là, il y a une plateforme qui existe et qui a été donc ouverte par rapport à ça. Et il y a un numéro de téléphone que l'on peut trouver aussi. Mais alors là, peut-être que vous pourrez le mettre sur le site.
Et pour le. Alors ça, c'est pour le carburant. Fuel et bois.
Alors fuel et bois, c'est pareil, c'est nouveau cette année. Parce qu'en fait, il faut savoir, je vous disais tout à l'heure, le chèque énergie permet de payer le fuel. Mais il a été décidé d'accorder des aides supplémentaires pour ces deux énergies spécifiquement cette année. Donc ce sont deux chèques, c'est pareil. Ce sont deux démarches. Aussi sur une plateforme ou avec un numéro dédié où vous allez pouvoir pareil, sous condition de ressources, même principe que pour la prime carburant ou le chèque énergie, vous allez pouvoir demander à bénéficier d'un chèque qui peut être de 200, 100, je ne sais plus. Après, selon les types, pareil, en bois, c'est selon le type de bois. Il y a le granulé, il y a un montant.
Les laisses, encore autre chose.
Voilà, c'est encore autre chose. Donc voilà, c'est à voir dans le détail. Mais en tout cas, il est tout à fait possible de demander à bénéficier ces deux chèques et qui ne sont pas... si vous bénéficiez du chèque énergie, vous pouvez également bénéficier du chèque fuel et du chèque bois. Les trois peuvent être utilisés.
Mais alors, contrairement au chèque énergie qu'on reçoit, en fait,
c'est pas
chez soi,
disons que là, c'est pas...
Là, les primes,
c'est vrai
il
que
faut demander, quoi.
Alors, que ça soit pour la prime carburant, que ça soit pour le chèque fuel ou le chèque bois, effectivement, la différence avec le chèque énergie, c'est que c'est pas une attribution automatique. Sauf pour ceux qui... Une petite nuance par rapport au fuel, ceux qui avaient déjà utilisé leur chèque énergie classique pour payer une facture de fuel. Et dans ce cas-là, ils recevaient automatiquement le chèque fuel.
Bon, je crois que là, on a progressé dans les informations.
Ça fait beaucoup d'informations.
Sinon, on peut aller aussi voir la CLCV directement lors des permanences.
Ne pas hésiter, parce que c'est vrai que pour rapport à la compréhension des factures, souvent les gens sont perdus et on fait de la pédagogie. On essaye de voir avec eux et d'essayer de leur faire comprendre comment ça fonctionne et voir où ils peuvent faire attention pour essayer de payer moins cher.
Et on va sur le site internet de la CLCV pour savoir où sont ces permanences.
C'est ça, exactement.
Merci Valérie. On se retrouvera encore une fois avant la fin de la saison. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.